Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie et après sur la planète Terre ou la planète Mer grâce au tendanceouest.com. Aujourd'hui, je reçois les confidences d'un journaliste qui est aussi animateur de télévision. Il anime entre autres l'émission The Voice et auteur d'un livre qui a pour titre Ce que j'aimerais te dire, un livre paru aux éditions Nil. Nikos Allégas, vous êtes donc notre invité pour ce jour. Ce livre, c'est comme une odyssée littéraire, je dirais comme un voyage au long cours. Comme une bouteille de la vie jetée à la mer de l'avenir, mais dans ce présent de votre existence, que vous inspire le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest, et le sous-titre c'est Cœur et vie, que vous inspire ces deux mots-clés?
Cœur, c'est les battements, c'est le rythme. Vie, c'est la promesse, et ce que l'on se doit, c'est d'honorer l'instant de vie, on ne vient pas là par hasard. Ma vie était plutôt compliquée. Hein. Dès la naissance, j'ai été opéré à quelques jours pour ne pas mourir, parce que j'avais une malformation, une maladie. Donc effectivement, même si je ne m'en souviens pas, l'épreuve de vie était là tout de suite. Donc déjà, ça calme, ça met tout le monde d'accord. Donc je suis resté pas mal de temps à l'hôpital. Puis le cœur, c'est peut-être l'amour, tout simplement. Mais pas l'amour au sens comment dire, prosaïque du terme. Mais honorer le mystère de la vie, c'est d'être déjà dans l'amour.
Et dans ce mystère de la vie qu'est l'amour, quel est le lieu de respiration que vous privilégiez?
Oh, je pense que je me ressource sur la terre de mes parents, en Grèce. Je me ressource dans ma solitude aussi. Hein. Quand on est exposé, qu'on fait des métiers publics, où on est littéralement mis en pièces hein, par les gens, d'une manière positive souvent, hein, d'une manière « je vous ai vu, je veux vous toucher », ou on est presque dans l'idololâtrie hein, quelque part. On a besoin de solitude. J'ai besoin de ma solitude, d'être dans mon... qui n'est pas triste, qui est juste peut-être dans la tradition des hésicastes, hein, de ceux qui prenaient le temps dans les montagnes pour prier et être proche de Dieu. Bon, je ne veux pas dire que je suis un exemple absolu. Bon, ma foi, j'en parle tranquillement, mais on peut être croyant, on peut être dans une démarche d'eucharistie, hein, d'aller à la messe, etc., tout en étant rock'n'roll. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Il m'est arrivé d'aller à la messe après avoir fait une nuit blanche, donc bon, et avoir dansé jusqu'à 7h du mat. Donc tout ça fait partie du paradoxe, mais voilà.
Comment trouvez-vous l'équilibre entre la flamme fragile que peut être la vie et le feu des projecteurs lorsque vous êtes sur scène?
Déjà, le feu des projecteurs, c'est un prêt. Hein, on est là de passage, comme on l'est sur Terre, hein, je vous le disais tout à l'heure, on l'est aussi à la télévision ou ailleurs. Ça, quoi, peut-être que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on ne se souviendra même pas de mon prénom, et il y a de fortes chances. Donc déjà, il faut l'accepter, ça. Dire qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas élu, on est juste des artisans et on fait notre job. Après, il y a façon de faire le job. Il y a par cupidité, par passion, par cynisme, par amour des gens. Il y a un peu de tout. On recherche tous à être reconnu déjà par psychanalytiquement par son père et sa mère. Moi, je préfère être reconnu pour mon travail à terre, même si on se souvient pas de mon prénom, plutôt que d'être reconnu dans la rue en me disant mais dis-moi, t'es plus à la télé là depuis quelque temps. Donc c'est un paradoxe, c'est une schizophrénie, une douce schizophrénie, mais l'un aide l'autre. On va pas se mentir. Si t'as pas un monde intérieur solide et si t'es pas ancré à la fois sur terre, mais pour être spirituellement quelque part, hein, si t'es pas connecté avec l'invisible, c'est-à-dire que tu tiens pas longtemps. En même temps, être dans l'arène, ça m'excite, hein, on va pas se mentir. C'est complètement une arène. Un jour, le public le pousse vers le haut, vous dit c'est magnifique, puis le lendemain, vers le bas, vous dit c'est terminé, maintenant tu rentres chez toi. Ça me plaît aussi. Pourquoi? Allez savoir.
Comment écrire, Nikos Allégas, la partition musicale d'une vie et qui peut avoir des goûts parfois d'échecs, mais aussi de succès? Je pense là à celles et ceux qui participent à l'émission The Voice.
Ils savent comment ça fonctionne. Ils ont une maturité, une émancipation, même à la fois consciente et inconsciente. Mais ils ignorent leur monde intérieur. Ils réalisent aussi que c'est difficile parfois de s'accepter, hein, la solitude, d'être bien, d'être en paix avec soi-même, d'accepter la peur, d'accepter l'échec. Alors que la semaine d'avant était peut-être mis en valeur par l'émission ou par la société, on en est tous là. Il faut aussi savoir l'assumer. C'est pas grave de perdre, hein, disait Périclès. C'est pas grave d'échouer ou de perdre une bataille. Ce qui est plus grave, c'est de ne rien faire pour changer ton état. Donc l'épreuve, elle est intéressante parce que c'est aussi un parcours initiatique. Alors certains en ressortent plus forts, d'autres avec peut-être un peu moins d'illusions. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux rester chez soi et regarder la télévision et dire « mais si on m'avait donné l'occasion, j'aurais pu, je suis un artiste frustré », plutôt que d'essayer de perdre et de dire, ben, finalement, c'était peut-être pas pour moi, ou de gagner, ou de prendre son temps et de dire, finalement, j'ai appris ça, et peut-être qu'à moyen terme ou à long terme, j'arriverai à faire mon chemin. C'est une vraie question, hein, de fond. Il vaut mieux essayer, se battre, peut-être pas arriver au sommet, mais en connaître le prix, plutôt que d'être à l'extérieur et dans la théorie et dans le conditionnel, dans la supposition, dans le si. C'est un vrai débat.
Vous avez vu beaucoup de personnes qui ont participé à des émissions de télé-réalité. Comment trouver l'équilibre entre ces émissions de télé-réalité et la réalité de la vie ?
On va pas se mentir, ils passeront à la réalité de la vie tôt ou tard. Alors on peut se raconter des histoires, hein, on peut leur promettre des études, et un miroir aux alouettes sociales, une réussite. Et souvent quand ils arrivent à 27 ans et qu'ils ont fait une dizaine d'années d'études, ils sont déprimés parce qu'ils se rendent compte que la vie est plus dure que ça. Je crois qu'il faut leur apprendre que ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine d'être dans l'arène, quand bien même il y a un côté éphémère qui est celui de la télévision. Moi je leur tiens un discours vrai, c'est-à-dire que je le dis en toute humilité, en toute modestie, je leur dis voilà, c'est comme ça que ça se passe, voilà les règles. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des choses bien, il y a des choses plus difficiles. Profitez-en. Pas comme celui qui est affamé, comme celui qui sort d'un jeûne de 40 jours dans le désert et qui tu donnes 15 kilos de pain et qui meurt parce qu'il ne peut pas tout descendre. Pas comme un affamé, mais avec la dignité. Vous êtes là, vous ne vendez pas votre âme pour plaire. Mais puisque vous êtes là, essayez d'aller sortir votre vérité à vous. C'est quoi ta vérité? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Soyez honnête par rapport à vous-même. C'est la meilleure façon d'avancer si tu sais. Et si tu t'acceptes. Donc en leur tenant ce discours, peut-être que ça les aide.
La voix est aussi une belle radio portative. Elle peut être sur plusieurs fréquences. Elle vous permet de chanter, de parler, Nikos Aliagas. Mais comment trouvez-vous la bonne harmonie entre cette voix et la voix intérieure que peut être la spiritualité ?
Je n'ai jamais trahi ma spiritualité. Même en faisant un métier, on va dire, de show business, entre guillemets. Hein, je ne suis pas dans une démarche alibi immatérielle pour pouvoir jouir du matériel. J'ai besoin de boussole, j'ai besoin de réponses, ou même de poser des questions. C'est possible, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible d'être sur un plateau de télévision et en même temps sentir qu'il se passe quelque chose, sentir que dans le regard d'un môme qui n'y croit plus, il peut se passer des choses quand il est émerveillé par un spectacle ou un enfant malade qui vient vous voir et... Même si pour vous c'est rien de lui serrer la main ou lui faire une bise ou un petit autographe, peut-être que pour lui c'est une force qu'il va chercher ailleurs. Donc je sais pas, j'ai espoir, j'y crois encore, comme dirait Lara Fabian.
Comment trouvez-vous l'équilibre entre être aimé pour ce que l'on fait et pour ce que l'on est, lorsqu'on parle de télévision et l'homme que vous êtes au quotidien?
Pour être aimé, il faut aimer. Il faut pouvoir dire à quelqu'un « je t'aime ». Alors le prix du « je t'aime » aujourd'hui, parfois on le brade, parfois on l'élève tellement qu'on est incapable de le prononcer. C'est pas facile quand on est effectivement dans la lucarne de savoir pourquoi telle ou telle personne vous approche, ou etc. On rentre dans une parano presque instinctive. Et la célébrité n'a pas aidé ni ma vie privée, ni mon équilibre et ni peut-être mon instinct par rapport à la relation amoureuse. Mais il faut y croire.
Vous écrivez « Nous sommes tous porteurs d'une histoire, d'un héritage connu ou inconnu ». On adore réinventer sa vie, se donner des airs ou un métier, mais on ne peut pas gommer ce qui est en nous, surtout l'invisible. Renier, c'est se perdre. Oublier, c'est se donner moins de chances de pouvoir choisir demain et d'avoir une distance, une profondeur, une réflexion. Et vous dites aussi, Nikos Aliagas, qu'il faut apprendre dans la vie à déployer ses ailes, mais que cela peut faire mal.
On a tous des ailes en nous, hein. Il faut les savoir les déplier à un moment ou à un autre, mais bon, ça fait mal, hein, parce que déjà, ça déchire le costume. Ça fait mal au dos aussi, hein, voilà, et c'est lourd. Si on vole pas avec ses ailes, elles traînent, donc ça sert à rien. Il faut pas avoir peur de déplier ses ailes à un moment et puis de s'envoler, même si on se casse la gueule, c'est pas grave. Mais faut y aller.
Alors s'envoler, comme vous dites à l'instant, mais parfois l'horizon peut sembler bouché lorsque, par exemple, nous sommes face à l'absence physique de quelqu'un qui peut être décédé. Comment donner une présence à l'absence physique ?
La façon de faire revivre quelqu'un, c'est de l'aimer pour ce qu'il a été et d'honorer chaque instant de vie qu'il a laissé derrière lui. L'âme ne meurt jamais. Moi, je ne crois pas. Il n'y a pas de fin en soi. Tout est un éternel espoir. Bien sûr que c'est difficile. Comment voulez-vous rassurer ou trouver les arguments pour enlever la peine d'une mère qui a perdu son fils ? Ça n'existe pas, hein, quoi qu'on dise. En revanche, l'expérience de la mort de Grégory Lemarchal nous a prouvé que ce gamin était un ange, quoi. C'est que dans sa douleur, dans son Golgotha, il l'a toujours fermé, il s'est jamais plaint. Il nous a montré que c'était possible, qu'il pouvait aller chercher une voie, alors que techniquement et biologiquement ou médicalement c'était impossible. Dans sa foi, parce que finalement c'était son sacerdoce, c'était sa foi en sa vie, en la vie. Je veux vivre, je sais que je vais mourir, mais c'est pour ça que j'ai envie de vivre. Et c'est la meilleure façon de dire aux autres, battez-vous. Se battre, c'est accepter. J'accepte ma maladie, mais j'accepte aussi mon rêve. Et je veux aller jusqu'au bout. Donc, en ce sens, ce gamin qui est arrivé, qui a transcendé vraiment, véritablement son existence à la télévision. Voilà, l'autre côté de la télé. On dit, oui, effectivement, on se brûle les ailes, etc. Ben lui, il a utilisé tout ça. Et il nous a prouvé que c'était possible. Et il nous a rendus tous minables. Quand on arrive le matin, qu'on dit on a mal à la tête, je suis pas bien, j'ai des problèmes, oui, les impôts, on s'en fout. Et lui, il a pas des problèmes. Grégory, avant les primes, il pouvait même pas parler. Il était plié en deux dans sa loge. Et alors, quand il est parti, le 3 mai, je me souviens, j'étais avec des enfants malades à Genève. Quand il est parti, il nous a rendu tout le peu qu'on lui a donné. On va dire, sa résonance est là. Lui est ailleurs, il est là-haut. Il est parti avec beaucoup de dignité, sans jamais avoir triché. Dans sa foi, c'est un garçon qui croyait en Dieu et qui en même temps disait pas pourquoi tu m'as fait malade. Hein ? C'est en ce sens que la vie est aussi injuste, on disait tout à l'heure. Elle n'est pas juste ou injuste, c'est comme ça la vie. Il nous a rendu le peu qu'on lui a donné parce qu'avec sa mort, il a réussi à unir tout le monde. Et puis, il a donné espoir à tous ceux qui étaient malades, qui sont malades, quelque part. Donc, en ce sens, c'était un ange. Il n'a rien demandé à personne, et il a fait du bien, il est parti, aussi discrètement qu'il est arrivé, et entre-temps, il nous a fait espérer et rêver.
Et cette question de la souffrance ne vous laisse pas aller au désespoir et au doute même de l'existence de Dieu ?
Je doute pas de Dieu, je dis juste pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui, alors qu'il avait envie de vivre, tout simplement ? Je parle pas de Grégory nécessairement, mais je vois des enfants malades dans les hôpitaux, des bouts de choux qui n'ont rien fait à la vie. Quoi. Alors est-ce qu'on doit mourir et avoir une date limite d'espérance de vie selon ses actes ? C'est à nous de juger ça. C'est pas à nous de le juger. On s'appartient pas. Je pense que tous les gens qui ont perdu des enfants ont été ravagés, mais ils ont vécu encore. Ils étaient encore là. Lui est parti, hein, le petit bout de chou est parti. Bien sûr que c'est compliqué de voir un gamin, j'en ai vu encore il y a 15 jours, brûlé par la radiothérapie, qui a 4 ans, et qui vous regarde avec un regard, il ne se plaint même plus tellement il a eu mal. Il ne peut plus se plaindre, il est déjà carbonisé. Mais son âme ne l'est pas, et son regard veut se battre. Donc je doute pas de Dieu, je dis que juste que c'est terrible. Alors parfois on rentre dans un... On perd un peu le sens de la douleur, on perd le sens du... Quand on voit beaucoup de malades, pour en avoir discuté avec le corps médical, ils deviennent fous à la fin. Ils ne peuvent même plus sortir de là. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont pris par cette injustice, par ce côté macabre de voir des mômes mourir, de les soigner pendant des années, 2-3 ans, et puis les voir rechuter, partir en 2 minutes. Puis de l'autre côté, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils doivent se battre.
Et ce livre que vous avez écrit et qui a pour titre « Ce que j'aimerais te dire », c'est pour votre fille Agathe. C'est l'envie de tisser un lien de tendresse, comme un fil d'Ariane qui pourrait être utilisé à sa guise. Vous écrivez que la paternité a été un séisme pour vous. Il y a la naissance, où on réalise qu'on est papa. Être père, c'est comme dans tout amour. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Quel est ce message que vous aimeriez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest, peut-être à ses papas ?
Chaque seconde de vie compte, honorez-la, réveillez-vous avec un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans votre jardin, dans votre famille, dites à ceux que vous aimez et à qui vous ne l'avez pas dit que vous les aimez vraiment. Vous avez une force, on a une force en nous qu'on ne connaît pas. On peut aller tellement loin, on peut tomber aussi très bas. Mais si on tombe bas, ça veut dire aussi que ça peut marcher dans l'autre sens. Si vous êtes déprimé et que vous m'entendez, ça veut dire aussi que vous pouvez remonter encore plus haut. Parce que la nature n'aime pas le vide, et même l'âme n'aime pas le vide. L'âme est plus forte que tout. Et il suffit de se concentrer, d'y croire. Concentrez-vous avec ce que vous avez autour de vous, tout simplement, même si c'est difficile. Surpassez-vous. Vous pouvez y arriver. Moi, je suis né dans une famille modeste. J'ai rien trouvé devant moi. J'ai construit mon petit bout de chemin. Demain, tout peut partir. Mais c'est parce que l'âme était forte. Voilà. Et parce que vous vous devez de vous lever, de vivre et d'être bien. C'est la règle.
Et dans ce petit livre que vous offrez comme un guide de vie à votre petite Agathe, vous écrivez que vous avez besoin de faire une retraite régulière au Mont Athos pour revenir à la source. Et quand vous avez commencé dans votre vie professionnelle à vivre avec le stress, les tensions, l'ambition ou les échecs, votre seule mesure de régulation, c'était d'aller avec des copains au Mont Athos. Certainement que les auditeurs de Tendance Ouest auront appris à connaître autrement l'animateur et le présentateur de cette émission de Voice. En tout cas, on a bien compris cette voix intérieure qui vous animait, alimentée certainement par le mot silence. Silence, on tourne peut-être, et ce n'est pas du cinéma votre vie.
Ah non, c'est la vérité. Est-ce que le cinéma, c'est pas la télé? Hein, c'est, il est peut-être là le cinéma. Est-ce que finalement, je ne me cache pas derrière l'image de l'animateur? Est-ce que finalement, c'est pas ça mon armure? Hein?
Et quel est ce message, comme conclusion, que vous aimeriez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest, première radio régionale de Normandie?
Alors, on dit qu'il fait pas beau en Normandie. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Je l'ai expérimenté. J'aime beaucoup votre sens. Votre rapport à la terre et votre rapport entre ciel et terre, il y a des hommes et vous êtes de belles personnes. Voilà.
Podcast by Tendance Ouest.